suite de cette émission où l'on parle de 33 histoires vraies, des histoires où des médecins se racontent, racontent leurs pratiques et racontent leurs émotions également.
Comment vous sentez-vous, messieurs ? J'essaie
bien.
De vous ausculter. À distance.
Il y a du boulot,
à distance, ouais.
Parlez-moi un peu des histoires que vous avez racontées, notamment René-Marc Jolidon. On l'a dit, vous êtes l'étranger de nos invités ce matin, vous venez d'Yverdon. Et vous avez raconté une histoire qui nous emmène bien, bien au-delà d'Yverdon. Fatimata, racontez-moi un peu.
Fatimata est une petite une jeune fille qui était au Cameroun et que j'ai vu arriver un jour avec une tête grosse comme une citrouille parce qu'elle avait été attaquée par un essaim d'abeilles. Et c'est l'histoire que je raconte avec les émotions que la situation avait apportées.
Une histoire que l'on sent douloureuse pour vous, Jean-Marc, René-Marc Jolidon.
Les histoires sont souvent douloureuses dans notre métier parce qu'on est confronté à la maladie, à la mort. Ça permet d'être, comme disait la chanson avant, nous ne sommes pas des aveugles, nous sommes des témoins, à mon avis des témoins privilégiés, mais souvent avec des émotions comme goût.
Est-ce que ce livre, pour vous quatre ici, ça a pu avoir aussi un effet thérapeutique ?
Pour moi, non.
Le fait de raconter, ça peut libérer des choses ou pas du tout ?
Je prends peut-être la parole, oui.
Philippe Ferguer.
Merci. Peut-être juste par rapport à la belle Fatimata de mon cher collègue René-Marc Jolidon. Cette histoire, elle est extraordinaire comme beaucoup d'autres. Mais je pense que je ne serai pas le seul à avoir les yeux mouillés après l'avoir lu. Donc il y a des choses extrêmement émotionnel là-dedans. Mm-hmm. Par rapport au côté thérapeutique que vous demandez, ça dépendra beaucoup aussi du laps de temps entre l'événement de l'histoire et le moment qu'on l'écrit.
Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que souvent, j'ai l'impression que quand j'imaginais, je me mettais à votre place et j'ai l'impression que souvent, à ces histoires, on donne des réponses très rationnelles en disant non, mais c'est pas ta faute, ou tu ne pouvais rien faire, ou il n'y avait rien à faire, ou tu as fait ce qu'il fallait, alors que finalement, ça ne pourra jamais consoler un cœur brisé ou des émotions comme celles que vous avez pu ressentir au contact de cette Fatimata.
Absolument. Donc là, on parle de mécanismes de défense que chacun parmi nous, je pense, aussi bien M. Humer que Claude-François Robert, on crée ces murs pour nous protéger, pour pouvoir exercer notre métier.
Qu'est-ce qui se passe au moment d'écrire l'histoire que vous allez dévoiler, finalement au moment de l'écriture, cette émotion, elle est vive, elle est différente. Comment vous la ressentez ?
Quelqu'un veut répondre, peut-être ?
Oui, je vais répondre. Je trouve que c'est difficile d'écrire, parce que vous avez tout le temps de réfléchir, et moi j'ai mis un cas que j'ai mis dedans, j'ai mis presque 35 ans avant de le mettre et de l'écrire. Et là, il y a toute une série d'émotions, il y a tout notre vécu et nos autres expériences qui viennent se rajouter là-dessus, alors que on pourrait se dire, oui, à ce moment-là, tu as mal fait, tu as mal agi, alors qu'en réalité, on a agi comme on devait agir à ce moment-là.
Ça veut dire aussi que chaque expérience médicale, des expériences aussi fortes que celles qu'il y a dans le bouquin, vous marquent à jamais, même si elles ne reviennent pas tous les jours en tête, au moment de l'écrire, celle-là qui va sortir.
Tout à fait. Et je pense que dans les expériences qu'on a, comment est-ce qu'il faut dire ? Je pense qu'on doit arriver à se surpasser et à se dire peut-être cette expérience que j'ai eue, ça va servir à d'autres, ça va servir à moi-même. Et de toutes ces expériences, moi j'en ai, je peux vous dire, 30, 40, 50 ou 100, c'est que je pourrais vous réciter comme j'ai cité les cas que j'ai écrits pour le livre qu'on vient d'écrire. Voilà.
Claude-François Robert, est-ce que vous avez l'impression peut-être qu'il y a aussi une sorte de solidarité à travers ce livre? Et puis peut-être justement, tout à l'heure René Marjolidon nous disait que ça ne lui avait pas nécessairement fait du bien ou n'avait pas eu un effet thérapeutique pour lui, mais par contre le fait d'être soutenu par tant d'histoires que vous auriez pu tous vivre finalement, est-ce que ça aide?
Alors c'est vrai qu'à l'hôpital on va se concentrer sur des aspects techniques et puis quand on est au cabinet souvent on est seul. Et il y a quelque chose de rassurant de voir que nos collègues ont eu des grands moments d'émotion. Aussi, ces histoires sont exceptionnelles parce que souvent, enfin pour moi, c'est des histoires souvent qui datent d'il y a plus de 20 ans, dont je me souviens, je visualise chaque moment quand j'ouvre la porte, quand je vois le patient. Donc d'avoir mis ça en mots, c'est re-raconter une réalité qui m'a marqué il y a 20 ou 30 ans.
Et c'est aussi peut-être une aide pour des jeunes médecins ou des étudiants en médecine qui doivent se poser les mêmes questions que tout un chacun se pose par rapport à sa pratique, par rapport à la gestion et du travail et des émotions, etc. Est-ce que ça peut aussi être un livre qu'on va distribuer sur les bancs des écoles de médecine pour que les futurs médecins, les jeunes médecins se rendent compte que leurs aînés passent par les mêmes états émotionnels?
Moi j'espère que oui. Dans le sens que ce qui avait été proposé aux auteurs, c'est d'exprimer une certaine émotion. Et ce que je voulais dire avant, où ce texte n'a pas été thérapeutique, c'est que les émotions qu'on a ressenties, c'est pas une maladie, donc il n'y a pas besoin de thérapie pour ce genre de choses. Quoi.
Non, c'est même plutôt sain finalement d'en ressentir des émotions.
Tout à fait.
Est-ce que je peux juste utiliser ce petit moment-là, puisque on parle d'une part du point commun, du dénominateur commun de ces histoires. Et puis quand j'ai cherché les co-auteurs pour ce livre-là, c'était toujours la question, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que tu veux qu'on écrive? Et puis la seule chose que je leur disais, c'est écrivez une histoire qui vous-même vous a touché et puis vous oublierez plus jamais. Ça, c'était un premier message. Un deuxième volet qui est quand même assez important aussi, vous avez touché le fait de pouvoir l'utiliser à l'enseignement universitaire. Et effectivement, avec François Leblanc qu'on a eu en début d'émission, on voulait faire ces deux volets. D'une part, écrire un livre pour monsieur et madame tout le monde, qui puisse vraiment avoir du plaisir pour cette lecture-là, qui peut être superficielle, qui peut être profonde, à chacun de choisir. Et puis, parallèlement, on a eu l'occasion d'avoir une équipe, de psychiatres qui ont analysé chaque histoire, ils ont fait un résumé de ça, et suite à ça, on a fait un sommaire qui va pouvoir aider après de trouver les histoires qui sont en fonction des sujets comme la mort, comme le sentiment d'insuffisance, les problèmes de communication.
Alors je vous propose qu'on revienne sur la structure de ce livre et le contenu plus en détail après une petite pause musicale. Joël, une nouvelle chanson bien à propos.
J'ai vu la lumière, à vous de voir. Vous interprétez ça comme vous voulez. Et juste avant, je vous signale qu'il y a des camions qui gênent la circulation en haut du col de la vue des Alpes. Ça crée des bouchons, c'est enneigé. Soyez très prudents.
À l'intérieur et l'amour a toujours faim. L'amour est mystérieux, l'amour c'est un malheureux, mais l'amour est un héros. L'amour est insaisissable, même si l'amour est cassable, l'amour a sa dans la peau. J'ai vu la lumière en passant. Par terre, l'amour c'est un appel d'air, l'amour est un évadé. L'amour un jour fiche le camp, un jour l'amour te reprend, l'amour c'est un habitué. Que l'amour est volatile, l'amour fait son difficile, l'amour est un bon parleur. L'amour nous fait ses aveux, mais l'amour fait ce qu'il veut, comme il brisera. Passant par là, elle peut s'y perdre pour toujours. L'amour peut devenir fou, l'amour s'accroche à ton cou, l'amour a le diable au corps. Car l'amour est dangereux, l'amour c'est un dangereux qui n'a pas peur de la mort. L'amour n'est pas invincible, mais quand il te prend pour cible, l'amour est plus fort que toi. L'amour couche avec la vie.
Marc Lavoine dans Format à 3, 8h51.
Format à 3.
Et quid du secret médical à propos de ces histoires, messieurs? Comment on fait quand on doit maintenir un secret médical et qu'on a envie de témoigner? Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce que vous avez le droit de donner ces anecdotes? Est-ce que vous avez dû cacher certains détails pour pas qu'on puisse reconnaître les personnes?
Je vais peut-être répondre. Comme médecin cantonal, je dois veiller justement au respect du secret médical, donc j'étais extrêmement attentif à ça. En ce qui me concerne, naturellement, toutes les histoires sont anonymes. Et puis, en même temps, dans la construction, je pense qu'il faut vraiment veiller à pas donner de clés pour qu'on puisse identifier quelqu'un. C'est une histoire qui est un peu sortie de son contexte. Et puis, dans ce cas-là, je pense que les patients aussi sont souvent d'accord qu'on parle de leur expérience dans le sens où elle peut avoir une utilité pour d'autres médecins ou pour d'autres personnes.
Justement, à ce propos-là, lorsque vous lisez les histoires, les anecdotes des autres médecins, les autres histoires qui sont dans ce livre, est-ce qu'il y a tout de même chez vous encore un effet de surprise?
Qui veut répondre?
Bien sûr, chaque histoire est différente.
Docteur Jolidon.
C'est un métier passionnant pour ça, et quand on voit des vieux professeurs comme... le professeur Humer a été un de mes maîtres pendant une période de ma formation. Donc quand on voit les vieux professeurs qui s'émerveillent toujours jusqu'au dernier jour de la retraite par des cas nouveaux, oui, c'est un métier très particulier dans le sens qu'il est très riche et presque infini. Quoi.
À la fin de chaque histoire, il y a une petite analyse. Hein,
le regard du psy.
Il y a le regard du psy, cette analyse. Quelle est l'importance de cette analyse dans ce livre? Comment vous l'apercevez?
Donc oui, c'est une équipe québécoise dans un hôpital universitaire qui s'est mise avec nous, s'est mise ensemble pour voir si on peut prendre l'ensemble de l'histoire puis tirer vraiment l'essentiel de la problématique de base. Pour que monsieur, madame, tout le monde, où il ne faut pas être médecin ni spécialiste dans rien, simplement pouvoir bénéficier d'un petit résumé de cette difficulté du médecin.
Et vous l'avez ressenti comment d'avoir le regard du psy sur votre histoire?
Alors, je pense que chacun peut répondre. Je prends la parole en l'occurrence. Je trouvais intéressant de voir que quand j'ai écrit l'histoire, évidemment, je ne pense pas à ce qui va suivre après, qui c'est qui va analyser ça. D'ailleurs, ça a été décidé plus tard. Et puis, l'effet, c'est un effet de surprise. Et puis, en même temps, je dirais presque une baffe par moment, où je me dis, bon, ben, tiens, voilà, ben, c'est là que tu as fait l'erreur. Et puis, j'ai compris pour finir mon histoire après coup. Donc, pour moi, c'était, on peut dire, un effet thérapeutique dans ce sens-là, ou du moins un effet diagnostique pour moi.
Oui, non, on suivait, donc peut-être les autres voulaient s'exprimer également sur sur leur expérience.
Moi, dès qu'un psychiatre veut regarder mon travail, j'ai très peur. Donc, forcément, quand Philippe indique qu'il y aurait un avis d'un psychiatre...
Vous avez édulcoré un peu l'histoire, c'est ça?
J'ai consulté mon psychiatre à moi d'abord.
Mais je l'aurais dit très tardivement, donc j'avais les textes avant.
Ce livre s'adresse aussi bien au grand public qu'au corps médical, finalement. C'était évident de s'adresser en même temps à tout le monde?
Évident, je pose la question, c'est même pas posé, puisque le dénominateur commun, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'émotion. Donc on se base beaucoup plus sur... le vécu, sur la capacité d'observation, ce que les jeunes médecins font probablement un peu moins. Ils s'appuient plus sur des examens de laboratoire, sur l'imagerie. Alors que nous, ce qu'on voulait justement, le contraire, on voulait donner les ressources de base pour prendre un peu de distance par rapport à tous ces médias, puis ces possibilités d'accéder très rapidement aux informations. Alors on revient un petit peu aux bases.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Il va falloir conclure, mais pour toutes les personnes qui aimeraient savoir comment le docteur Luc Humer a été témoin du sauvetage in extremis de quelqu'un qu'on croyait mort.
Bravo.
Par une opération assez impressionnante. Si vous voulez connaître l'histoire de Fatimata, si vous voulez connaître également les histoires de Claude-François Robert, des histoires aussi assez passionnantes, eh bien vous pouvez vous tourner vers 33 histoires vraies. Un livre qui est sorti hier, si je ne m'abuse.
Le livre, il va arriver cette semaine, là. D'accord, donc à partir de la semaine prochaine.
Et puis, on mettra en lien la maison d'édition sur notre blog, sur le blog de Format A3. Comme ça, vous pourrez retrouver sans problème toutes les références.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre de nous avoir rejoints ce matin.
Merci.
On souhaite une belle journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
À bientôt.